I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut tout le monde, Raoul Villeroy au micro, très content de vous retrouver pour ce podcast Todd John Actu, le 317e du nom. Ça ne s'arrête plus, je suis comme d'habitude avec Alain Mattei. Salut Alain.
Hello, hello.
Ça va?
Ça va très bien, et toi?
Génial. Et avec Camille Sarabène à la technique. Salut Camille. Salut. C'est Halloween aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt pour l'occasion de Robert Griffin, pensez à son genou sur le terrain de Washington et vous aurez peur. L'émission du jeudi qui vous est présentée...
T'as vu, moi je suis déguisé en mec sérieux.
Ça fait peur aussi. Je disais quoi? Oui, l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL avec... Cette année, vous le savez, la possibilité de regarder les matchs depuis la plateforme d'Unibet. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est là. Choc en haut de l'AFC. Est-ce que les Patriots sont invincibles? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec Alain. On revient aussi sur les pronos et sur toutes les meilleures cotes de cette semaine 9. C'est parti pour un nouveau podcast. Top line, on three. One, two, three, top line. Alors, le match de la semaine, on l'a un peu teasé, Baltimore Ravens 5 victoires, 2 défaites qui reçoivent les New England Patriots à 8 victoires et 0 défaites. L'équation elle est simple, les Patriots marquent le plus de points de la ligue en moyenne et en encaissent le moins. Alors, est-ce qu'ils sont invincibles, Alain Mattei?
Alors, c'est quand même un drôle de match au sens où ils marquent le plus de points dans la ligue, tu vois, j'aurais pas dit qu'ils étaient numéro 1 sur les points. Alors, je sais qu'ils en encaissent moins de 8 par match, donc ça c'est quand même énorme. Oui. C'est quand même un match que je trouve assez rigolo au sens où les équipes ont quand même pas mal changé ces dernières années. Les oppositions Baltimore Patriots, c'était grosse attaque de New England, grosse défense de Baltimore. Ouais. Là, c'est presque inversé. Où on a une attaque de Baltimore qui produit énormément de choses, de yards au sol, etc. Mm-hmm. Et une défense des Patriots qui est la meilleure de la ligue au moment où on se parle, avec tous les facteurs modérateurs que vous voulez, le calendrier, etc. Mais statistiquement, en tout cas, c'est la meilleure de la ligue. Donc, ça, c'est pour le petit paradoxe. Après, ceci étant dit, est-ce qu'ils sont invincibles ? Probablement pas, parce qu'il n'y a pas eu d'équipe invincible depuis Miami dans les années 70, si je suis très factuel. Mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient l'air invincibles en 2007, mais il y a toujours une petite faille. La clé, de toute façon, on va vite y venir, c'est attaque au sol de Baltimore contre défense des Patriots.
C'est ça.
Il y a plus de 200 yards au sol pour Baltimore, c'est la seule équipe qui gagne plus de 200 yards au sol par match en moyenne cette année. La défense des Patriots autorise 85 yards au sol en moyenne. Je pense pas que Lamar Jackson passe une bonne journée s'il est obligé de lancer face à Stephon Gilmore, David McCourty et compagnie. Donc la clé, elle est là. La clé, c'est jeu au sol des Ravens à fond, à fond, à fond, à fond.
Avec Lamar Jackson inclus dans ce jeu au sol, de toute façon. Et d'ailleurs, figure-toi que les Ravens sont la deuxième équipe en termes de points marqués, donc juste derrière New England. Donc est-ce que si ça part en duel offensif, avec tous les attaques qui se répondent l'une à l'autre, ça peut être une solution pour les Ravens, dans la mesure où peut-être que les Patriots auront du mal à suivre?
Alors, je ne suis pas sûr que ça parte en duel offensif, au sens où si les Ravens veulent gagner, à mon sens en tout cas, jeu au sol, ça implique de bouffer le chrono.
Ce qu'ils savent très bien faire, c'est la meilleure équipe de la ligue. 35 minutes en moyenne de possession par match. C'est peut-être pas une mauvaise idée d'enlever Tom Brady du terrain, de toute façon.
C'est ça. Alors, sachant qu'en plus, et c'est là où j'en viens au fait que c'est pas impossible et qu'ils sont pas invincibles, c'est que les Ravens courent bien, mais défendent bien aussi contre la course. Eux aussi, ils sont juste devant les Patriots sur la défense au sol. Ils n'encaissent que 84 yards au sol par match. Donc, en fait, ce match, ça va être de mettre à l'épreuve les quarterbacks aussi. Les Patriots ont des problèmes de ligne offensive. Tom Brady est quand même plus un père drôle de l'année, comme on dit. Je suis en chemise, alors je cherche les expressions les plus vieilles possibles.
Ça va, il y a pire.
D'accord, attends, je vais mettre mes lunettes en plus. Donc, je le disais, excusez-moi. Non, j'enlève les lunettes quand même. Oui, ils ont une bonne défense au sol quand même, les Ravens. Donc, les deux quarterbacks à l'épreuve. Les Patriots ont 19 interceptions cette année, ce qui est quand même monstrueux en 7 matchs. Ils sont à 7-0, si je dis pas de bêtises. Je m'embrouille avec les semaines de repos.
Il y a 17 interceptions. Il y a 25 pertes de balles provoquées, dont 17 interceptions, c'est ça
Moi, j'ai 19 pour les inter. Mais je sais plus, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est en 8 matchs. Ça veut dire qu'ils sont à plus de 2 interceptions par match, quoi qu'il arrive. Donc, c'est délirant d'être à plus de 2 interceptions par match en NFL. Donc, voilà, encore une fois, ça va être dur. Il faudra bourriner au sol pour Baltimore. Et d'autant plus, mais il faudra le faire aussi pour les Patriots, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a quand même Earl Thomas, il y a quand même Marcus Peters qui est un parieur, qui est tout ce qu'on veut, mais qui est un joueur qui peut faire des interceptions et qui peut faire basculer des matchs sur une action. Donc finalement, je trouve pas ça si dingue de se dire que c'est pas infaisable. Un des problèmes de Baltimore, c'est qu'il n'y a pas trop de pass rush. Au moment où on se parle, ils ont un peu de mal à mettre la pression sur le quarterback. En tout cas, il y a vraiment une classe d'écart entre ces deux équipes.
Ah bah bien sûr.
Voilà, parce que Baltimore a une douzaine de sacs alors que les Patriots sont non plus du double, ils sont à 31. Donc voilà, le problème, il va être là. Baltimore doit stopper le jeu au sol des Patriots et mettre à l'épreuve Brady, sa ligne, surtout sa ligne évidemment. S'il a le temps de lancer Brady, évidemment, qui fera le boulot. Mais ce que je veux dire, l'idée, c'est de mettre à l'épreuve la ligne. Mais il va falloir avoir du pass rush pour forcer un petit peu ces erreurs-là. Mais voilà, donc bouffer le chrono. Mais c'est la recette depuis 15 ans pour battre les Patriots, en fait.
De toute façon.
Bouffer le chrono, marteler au sol, laisser Brady loin du terrain, lui mettre la pression quand il est dessus.
Le truc, c'est que Brady, il a pas mal d'armes à sa disposition. On l'a vu, il y a Mohamed Sanu qui est arrivé, qui a fait que 2 réceptions la semaine dernière, là, mais qui peut de toute façon apporter beaucoup. Julian Edelman était en grande forme. 4 matchs de suite avec au moins 5 réceptions, c'est quand même pas mal. Il y a James White, le coureur qui est très utilisé dans les airs, qui est le deuxième coureur en termes de réceptions dans la ligue à 358 yards. Il est juste derrière Austin Eckler des Chargers, mais lui, c'est spécial, il l'utilise particulièrement beaucoup. Donc voilà, en l'occurrence, même si Brady est forcé de lancer, j'ai peur que pour les Ravens, il y ait quand même un moment où ils se retrouvent dépassés par le nombre de gens qui peuvent leur faire mal en attaque.
Alors, il reste, voilà, moi je te donne des éléments qui sont pensés qu'il peut y avoir un match. Les Patriots restent favoris, ils ont le plus d'armes, ils ont le plus de matos, c'est indéniable là-dessus. Mais encore une fois, il y a des playmakers à Baltimore, il y a une capacité à stopper le jeu au sol des Patriots c'est pas exceptionnel depuis le début de l'année.
Non.
Donc voilà, la défense des Ravens, c'est pas ce qu'elle a été par le passé, mais peut encore sortir des choses. Ce sera une des clés du match, évidemment, mais encore une fois, bourriner au sol, l'année dernière, les Patriots perdent 5 matchs. Il y en a 4 où ils prennent plus de 150 yards au sol.
C'est un indice.
Donc voilà, là aussi, il y a un indice. Et je vais finir, moi, sur les arguments positifs pour Baltimore. Alors, il y en a un qui est très, très négatif. Les Patriots ont 24 victoires de suite contre les quarterbacks de moins de 24 ans.
Donc, c'est les stats américaines, il y a toujours des trucs de fou.
Non mais ça, voilà, ça montre à quel point Bill Belichick, voilà, Lamar Jackson, on l'a dit, c'est pas encore un grand passeur.
Pas encore.
Bill Belichick mange les jeunes passeurs.
Oui.
La dernière fois qu'ils ont perdu contre un quarterback de moins de 24 ans,
c'était Joe Flacco ?
Non.
Ah, du coup, j'étais resté sur les Ravens.
Non. Cherche un profil plus similaire.
À Michael Vick ?
Non, pas loin. Enfin, pas loin. Dans le style.
Russell Wilson ?
C'était en 2012 contre Colin Kaepernick et les 49ers.
Ouais.
Et à l'époque, c'était un peu, toute proportion gardée, mais les 49ers, c'était un peu ça. Quarterback qui pouvait courir et aller chercher des yards au sol, gros jeu au sol, grosse défense. La défense des Ravens, c'est peut-être un peu moins impressionnante que celle des Niners de l'époque. Mais voilà, ça te donne les éléments. Donc évidemment, Bill Belichick massacre les jeunes quarterbacks. Mais le petit motif d'espoir, c'est que le dernier jeune quarterback qui a battu Bill Belichick, c'était un mec qui courait, qui avait à peu près le même profil.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une autre petite statistique, si tu veux donner de l'espoir aux fans des Ravens, c'est que John Harbaugh, après ses bye week, dont les Ravens sortent, 6 victoires et 2 défaites.
Aussi, il y a ça, ils ont eu 2 semaines.
Voilà, ils ont 2 semaines pour préparer ce match-là. Est-ce que ça leur donne un avantage à voir? Bon, on a fait à peu près le tour. On a peu parlé du reste de l'attaque des Ravens, mais il y a quand même globalement que Lamar Jackson qui a l'air de pouvoir apporter un peu de jus à tout ça. Il y a quand même la paire de receveurs rookies, Miles Boykin et Marquise Brown. C'est la seule paire de rookies en NFL avec 2 touchdowns en plus.
Oui, non, mais
donc c'est pas mal.
Il y a des choses autour de lui, hein. Il y a du jeu au sol, il y a Mark Ingram
aussi,
voilà, il y a du matos, hein. C'est vraiment pas le Jackson, c'est le détonateur un peu.
C'est un peu ça. Sans lui, il peut rien se passer. Tu me diras, comme tous les quarterbacks.
Après, après voilà, si Andrews a pas des, relâche pas des ballons comme la semaine précédente, si, y a des choses, c'est un peu limite encore en termes de corps de receveurs et de cibles, ça mériterait d'être étoffé, mais il y a de quoi faire des petits trucs. Le problème, c'est que oui, Marquise Brown et les jeunes, ils se retrouvent face à du costaud, ils se retrouvent face à Stephon Gilmore, ils se retrouvent face à McCourty, ils se retrouvent. Voilà, c'est coaché par Bill Belichick. Donc ça va être très très dur de prendre les airs.
Mais ils vont prendre de l'expérience. Il faut le voir comme ça. C'est un match. De toute façon, quand tu joues les Patriots, derrière, tu ressors différent. Et bah, si tu arrives à leur faire un, ne serait-ce que transpirer un tout petit peu, t'aurais dû gagner ton match.
Et le but pour eux, c'est de les retrouver en playoff.
C'est ce que j'allais dire. Et on va finir là-dessus. C'est de toute façon un préquel qu'on peut avoir en playoff plus tard.
Peut-être.
C'est pas impossible. En tout cas, les Ravens ont l'air de bien partir pour leur division. Et les Patriots aussi. Ton pronostic, du coup,
Patriots.
Patriots. Pour moi également, on passe à tous les pronos. À un prono près, Alain Mathieu.
Ah oh, non, mais on en reparle pas.
À un prono près.
J'avais déjà oublié. Et sincèrement, j'avais oublié en plus.
Il réussissait la semaine parfaite, mais
oh,
non.
La vache.
La pas du jeu et de la barbe de Fitzpatrick.
Tu sais que les. Alors, je voudrais pas être.
Mais t'es pas le seul, hein. Greg aussi, il a fait faire une semaine parfaite.
Je ne voudrais pas être casser le mythe, mais il paraît que les dauphins sont vraiment des sales bêtes.
Ah bon,
en vrai, ouais, à ce qui paraît, c'est vraiment des animaux qui sont en fait très méchants et vicieux.
Je croyais qu'ils étaient hyper intelligents, moi. Bon,
ouais,
non, mais
justement,
pas
ils sont encore plus vicieux. À ce qui paraît, ils ont des pratiques déjà très limites avec la jambe féminine chez les dauphins. Et en plus, il paraît qu'ils tuent les requins en leur mettant des coups de nageoire dans le bide jusqu'à leur faire exploser les organes. Donc c'est quand même des sales pratiques. Je tenais à le dénoncer. Les requins sont des sales types. Les dauphins sont des sales types. Voilà. Non, mais je suis dégoûté.
Bah, en même temps.
Non, mais alors attends. Perdre ce match contre Pittsburgh, très bien, mais menez pas 14-0, franchement.
Ouais, ça, c'est vrai que ça doit pas être.
J'essaie. Alors, tu es témoin, Raoul, on se connaît depuis des années.
C'est vrai.
J'ai toujours dit que j'essaie de ne pas jurer à l'antenne.
Oh, hein. Ouais.
Mais je suis quand même à ça de lâcher un putain de merde, quoi, tu vois.
Ah bah la vache, on est pas passé loin, hein. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, alors si ça peut te rassurer, pense à Greg qui a failli faire une semaine parfaite aussi.
C'est qui le tue, lui?
Eddie Pinheiro, le kicker des Bears. Est-ce que c'est pas limite?
Ah ouais, lui, Pierre, il a encore plus de suspense que moi. Quoi.
Ah ouais, jusqu'au bout, il s'est dit c'est possible. Et il a vu ce field goal, il s'est dit c'est bon. Mais
non, mais après, ce qui est cruel pour moi, c'est que c'est le dernier match, quoi. Tu vois, j'ai même eu une journée pour cogiter, c'est même pas comme si c'était le Sunday night. Tu vois.
Tout le lundi, tu te dis si jamais.
Mais
la semaine
franchement, tout le lundi, j'étais un peu ambiancé en mode genre, franchement, j'ai l'air d'un génie demain matin si ça passe. J'ai l'air d'un
ouf,
génie si ça passe. Tu vois, j'étais chaud quoi. Première fois, franchement, on va pas se mentir.
Je crois que c'est jamais arrivé, hein, une semaine parfaite dans le podcast.
Je crois pas, justement. Et donc, j'étais vraiment chaud là-dessus. Et en plus, j'étais vraiment, tu vois, en mode pendant toute la journée de lundi. J'étais en mode putain, je suis ambiancé pour ce match horrible quoi. Mais j'ai trop envie de voir ce match
finalement,
horrible.
C'est ça qu'il faut.
Ah bah ouais, mais du
c'est
coup
à ça que ça sert.
C'est à double peine. J'ai vu un match horrible et en plus j'ai été déçu. Mon café avait mauvais goût mardi matin.
Tout allait mal. Donc Alain fait 14 la semaine dernière, Greg aussi. Camille et moi on fait 13 et Raphaël 12. Ce qui donne Camille à 73 à égalité avec Raphaël. Attention, Raphaël qui finit par attraper le wagon de fin. Alain à 74, Greg à 78 et je suis à 82. Tout continue de rouler dans le meilleur des mondes, c'est magnifique. Alors, tous les matchs de la semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h20, on reste en horaire décalé, c'est férié vendredi, donc profitez-en.
On est encore à 1h...
Oui, ça change samedi.
Ah oui, d'accord, celui de jeudi soir, pardon.
Oui, ouais, jeudi, donc à 1h20. Donc, les Cardinals à 3 victoires, 4 défaites et 1 nul qui reçoivent les 49ers, 7 victoires, 0 défaites. Énorme démonstration offensive des Niners la semaine dernière, hein, 5 touches dans le sol. On attend peut-être un petit peu mieux de Garoppolo. Les Cardinals, c'est l'équipe idéale pour se mettre en avant.
Oui, alors oui et non, parce que je pense pas qu'ils aient besoin de Garoppolo en fait. Encore une fois, je pense qu'ils vont marcher sur les Niners qui sont vraiment en bas de classement contre le jeu au sol. Et du coup,
ils vont marcher sur les Cardinals du coup.
Oui, pardon, sur les Cardinals. Si les Cardinals, je pense que moi, encore une fois, c'est mon point positif avec Arizona, mais s'ils arrivent à garder la balle et à ne pas perdre de ballon face à cette défense, ce sera déjà un bon point pour eux et pour leur progression, parce que
bien
c'est
sûr
l'équipe qui perd toujours le moins de ballons en NFL. Mais là, ils ont du mal contre le jeu au sol, ils vont prendre cher a priori.
Probable. Il y a quand même de beaux défenseurs face à face. Chandler Jones face à Nick Bosa, c'est sympa.
Très très bon.
Maintenant, la défense des Cardinals, elle encaisse 400 points en moyenne par match, alors que celle des Niners, elle encaisse moins de 300, je crois qu'ils sont autour de 200.
400 yards par contre.
J'ai dit combien? 400
points.
400
points.
Oui,
ça
c'est beaucoup, 400 points.
Beaucoup.
Mais c'est 400 yards, effectivement.
Ça bon, c'est les Bengals, si tu confonds.
Oui, c'est ça. La défense des Niners est quand même bien plus solide de manière générale, en plus de Nick Bosa. Donc normalement, ça le fait pour les Niners.
Niners.
Niners pour tout le monde. Dimanche à 15h30, 14h30 à Londres, puisque c'est un match à Londres. On revient aux horaires normaux. Jacksonville Jaguars à 4 victoires et 4 défaites face aux Houston Texans à 5 victoires et 3 défaites. Ces deux équipes qui ont un peu une dynamique bizarre. Houston qui a eu du mal à battre Oakland, qui ont perdu JJ Watt, encore une fois. Un jour, il faudra peut-être se poser la question de ses entraînements d'été à lui, mais bon. Après, même sans JJ Watt en grande forme, de toute façon, ils avaient l'air d'être de rouler en défense. C'est surtout Whitney Mercilus qui est le leader de cette défense-là.
C'est vrai. Après, Watt apporte quand même des choses sur le leadership.
Il,
et
attire,
ça, mais
il attire un peu l'attention aussi.
Honnêtement, c'est un des matchs les plus durs à pronostiquer pour moi de la semaine. Tu rajoutes des 13-12 à l'aller pour Houston. Tu rajoutes le fait que c'est à Londres, qu'il y a le voyage pour les deux équipes, la pelouse qui n'est pas toujours au standard que
Wembley, moins qu'à Tottenham.
C'est ça, c'est un pur gazon, donc ils ont plus souvent du mal. Tu perds JJ Watt. Moi, t'as le meilleur quarterback avec Watson.
Ah, bah largement, hein. Son touchdown la semaine dernière, là, je m'en remets pas.
Voilà, t'as DeAndre Hopkins, donc dans le doute, je prends aussi le meilleur quarterback, donc je vais sur Watson.
Il y a quand même des éléments sympas aussi côté Jaguars. Hein. Évidemment, il y a Gardner Minshew, il y a Mike Evans. DJ Shark et Fournette. Ouais. DJ Shark est le meilleur receveur de touchdown de la ligue avec 6. Il y a 4 autres joueurs qui sont à égalité avec lui, dont Thielen et Mike Evans. C'est pour ça que je me suis gouré. Mais voilà, il est quand même présent. Il y a Fournette, on l'a dit, au sol. Est-ce que ça peut pas se jouer en défense finalement, ce match-là?
Oui, parce que c'est un peu plus incertain du côté de Houston. Après,
c'est une bonne défense, quoi.
Ouais, il y a gros pass rush de Jacksonville. Enfin, il y a vraiment pass rusher. Donc, face à cette ligne qui se cherche parfois encore un peu. Encore une fois, il y a un match. Hein. Pour moi, il est hyper incertain. C'est un pile ou face.
Ce sera un beau match si vous êtes là-bas.
Oui.
J'ai mis Houston aussi. Mais donc, 14h30 horaire londonien et 15h30 horaire français. Puisqu'on est revenu aux horaires habituels.
Oui, on repasse chez les Ricains.
J'ai sauté une page, ça m'étonnait.
Non, les Ricains passent à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça?
C'est ça. Et donc, dimanche à 19h, on revient aux horaires habituels. Philadelphia Eagles, j'y arrive pas. Chicago Bears, les Eagles à 4 victoires, 4 défaites. Les Bears à 3 victoires, 4 défaites. Enfin, le réveil de l'attaque de Philadelphie face à une bonne défense des Bills la semaine dernière. Là, est-ce que c'est un cran au-dessus, la défense des Bears?
Oui.
Par rapport aux Bills
Non, justement, pas forcément. Je checkais un peu parce qu'on en parlait dans l'émission de mardi. On disait ils sont solides mais plus dominants comme l'an dernier. C'est un peu ça. Ils sont 7e sur les yards, 6e sur les points encaissés. Donc, c'est une très bonne défense. C'est plus aussi dominant qu'avant. Ils sont 6e contre le jeu au sol. Je pense que ça va être un peu une des clés. Si Philadelphie continue à pilonner comme ils l'ont fait la semaine dernière pour essayer de se garder une identité un peu offensive et un équilibre offensif, je pense qu'ils peuvent éventuellement prendre le contrôle, sachant que, n'étant toujours pas convaincu par Mitchell Trubisky, je pense qu'à 20 points, ça passe pour Philadelphie. C'est un peu le leitmotiv contre Chicago.
Oui.
Donc, à 20 points...
Même à 17, on a vu les Chargers.
Voilà. je pense qu'en plus, avec un Fletcher Cox qui est bien revenu la semaine dernière, si tu pousses en plus Trubisky à la faute deux fois, on va dire une ou deux fois pour être conservateur, je vais mettre chez Philadelphie.
Ouais, moi aussi. On a vu quand même que David Montgomery, le running back des Bears, a fait un bon match la semaine dernière. Il faudrait qu'il aide un peu Trubisky de toute façon. Il va falloir lui filer un coup de main à ce quarterback parce que tout seul, ça va être dur.
Ouais, après,
je prends les Eagles aussi.
Lui aussi, il faudrait qu'il file un coup de main.
Oui. Pittsburgh Steelers, 3 victoires, 4 défaites. Indianapolis Colts, 5 victoires, 2 défaites. Les Colts qui semblent favoris sur ce match. Mais attention, les Steelers ont quand même provoqué 19 pertes de balles cette saison.
Exactement. Et c'est la deuxième équipe sur les ballons volés.
Derrière les Patriots.
C'est ça.
Donc heureusement qu'il y a ça pour eux, quoi.
Très bon test parce que les Colts ont perdu que 7 ballons cette année. C'est une des meilleures équipes là-dessus. S'ils restent propres, les Colts, qu'ils arrivent à pas tomber dans ces pertes de balles, etc. Après, ils ont le matos pour embêter Mason Rudolph,
normalement,
qui a quand même pas été à l'aise sur le début de match contre les Dolphins. Et c'était les Dolphins. Les Colts, il y a des joueurs, il y a Matt Eberflus pour coacher la défense, il y a du monde. Je pense que Indianapolis peut quand même confirmer. Ils arrivent à gagner des matchs même compliqués. Donc celui-là, il me paraît à leur portée, même si c'est à Pittsburgh et qu'il faudra faire attention à la défense.
S'ils gagnent, les Colts mettent fin à une série de 5 défaites d'affilée face aux Steelers quand même. Donc ça peut être le moment de lancer une nouvelle dynamique. Oh là là, Miami Dolphins, 0 victoire, 7 défaites. New York Jets, 1 victoire, 6 défaites. La belle affiche que voilà. Est-ce que Oui.
J'allais dire, doit-on parler de mes sentiments à l'égard de ces deux équipes en ce moment?
Non, pas forcément. Est-ce que c'est le match qui va éviter le 16-0 aux Dolphins? Le 0-16 en l'occurrence.
Alors, je ne parierai plus jamais sur eux, donc non.
Non.
Honnêtement, moi je me sens physiquement mal quand je vois l'affiche, c'est-à-dire que quand on prépare les émissions, on fait chacun notre petite note et tout, en général, et je pense que ça peut se ressentir dans ce que je dis à chaque fois, j'essaie de rechercher un match-up fort, une escouade forte, etc. Là, j'essaie de rechercher le truc le moins nul parce que je trouve rien de fort.
Ouais, c'est compliqué.
Je sais pas quoi chercher. T'as deux des pires lignes offensives de la ligue. Il y a 34 sacs pour les Jets, qui sont les pires sur les sacs autorisés avec les Titans, 28 autorisés par les Dolphins, qui sont 29e, mais t'as aussi les deux pires pass rush de la ligue, tu vois, avec 9 sacs chacun. Il y a que les Falcons qui font pire.
Oh là là.
Donc, t'as deux lignes pourries, mais deux pass rush pourris.
Ça s'équilibre.
Qui sera le moins pourrave? Est-ce qu'ils vont se rentrer dedans avec la tête et essayer de se passer comme ça l'un l'autre? On sait pas.
Sur le casque,
je sais pas à quoi ça va ressembler. Ça va être horrible. J'en casse le matériel. les Dolphins ont volé que 3 ballons cette année. Donc
et
c'est
ils
pareil.
Perdent Xavier Howard.
Et ils perdent Xavier Howard qu'ils ont mis sur la liste des blessés pour un ongle incarné.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Il faut le garder pour l'an prochain. Donc, je sais même pas ce qu'on peut attendre parce que j'ai l'impression, tu sais, que c'est des mecs dans une camisole, genre les linemen et tout. Ils vont être là, genre, j'ai toi, je suis tombé, je peux pas me relever. Ah, ils vont se débattre par terre.
Au secours.
Et puis voilà. Mais en même temps, comme les deux quarterbacks sont capables de lancer en ce moment des interceptions, même s'ils sont tout seuls au milieu d'une île déserte, en train de lancer à Wilson leur ballon ami comme Tom Hanks. Je sais pas. Franchement, c'est un match pile ou face parce que les deux sont catastrophiques. Je vais dire les Jets.
Les Jets aussi.
Mais je ne serais pas étonné que les Dolphins me poignardent dans le dos avec une semaine de retard.
Ça, j'ai mis les Jets parce que je me dis que Le'Veon Bell veut peut-être faire monter un peu sa cote, tu vois.
Il y a ça.
Bon, on va voir. Mais en tout cas, ce ne sera peut-être pas le match qu'il faut choisir si vous n'êtes pas fan d'une des deux équipes et que vous n'avez pas quoi regarder.
Injustement pris pour cible Le'Veon Bell quand même. Cette semaine, vous voyez ce qu'il fait, finalement il ne fait rien, etc. Il n'y a rien autour de lui.
Bah oui, c'est ça. C'est l'arbre qui cache la forêt. Kansas City Chiefs, 5 victoires, 3 défaites. Minnesota Vikings, 6 victoires, 2 défaites. Figure-toi que c'est le remake du Super Bowl numéro 6, gagné par les Chiefs. C'est un peu rageant pour les Chiefs de jouer ce match sans Patrick Mahomes, ouais. Forcément. Est-ce que ça rend la victoire impossible?
Franchement, la défense des Chiefs serait un poil meilleure. Je te dirais pourraient peut-être aller la chercher s'ils arrivent à mettre un peu la pagaille sur Kirk Cousins. Mais Kirk Cousins, qui a quand même été élu joueur du mois ce matin, qui est vraiment sur une bonne série. Alors ça se joue à Kansas City, donc il sera peut-être un peu moins à l'aise en déplacement, mais
même Dalvin Cook devrait suffire, hein.
Mais ils ont tellement d'armes, les Chiefs, en attaque. Les Vikings ont tellement d'armes en attaque qu'ils vont déborder la défense de Kansas City
de toute façon.
Ça, voilà, c'est fait. Mais voilà, je pense pas que les Chiefs, eux aussi, ont beaucoup d'armes. Je pense pas qu'ils soient totalement à la rue en attaque et qu'ils marquent pas de points. Je pense pas qu'ils se fassent complètement étouffer. Donc leur défense aurait été un poil meilleure, pourquoi pas. Mais là, ça me paraît compliqué. Donc Vikings.
Pas proche quand même chez les Vikings aussi.
Oui,
hein.
oui, mais c'est bien coaché avec Andy Reid. Il y a beaucoup de, il y a des Tyreek Hill, des Kelsey et des McCoy qui peuvent enlever de la pression à Matt Moore.
Ouais.
Donc ça me semblait pas infaisable, mais leur défense est trop juste. Donc Vikings. Ouais.
C'est con pour les Chiefs que ces matchs-là arrivent maintenant et que ce soit pas face à des petites équipes.
Ouais. Oui, ils ont un vilain calendrier pile au moment où.
Ouais, ouais. Bon. Mais Minnesota Vikings pour moi aussi. Carolina Panthers 4 victoires 3 défaites. Tennessee Titans 4 victoires 4 défaites. Tennessee qui est finalement meilleur avec Tannehill. Comme
et
quoi.
Et celui-là il est comme le Jaguars Texans. Ouais. C'est une plaie à pronostiquer parce que t'as deux équipes qui sont assez similaires quand même.
Ça défend quoi. Il y a quand même une meilleure défense côté Panthers sur le papier. Je trouve.
Ouais, mais celle des Titans c'est pas mauvaise. Hein.
Pas mauvaise.
Franchement les deux sont corrects. Les deux.
Y a un élément qui différencie les deux.
Christian McCaffrey. Ouais, mais tu vois, Derrick Henry fait du taf de temps en temps. Bon, il est beaucoup, beaucoup plus unidimensionnel.
Oui, complètement.
Mais est-ce qu'il y a... Il y a des meilleurs receveurs quand même dans le Tennessee. Je trouve que ça se développe bien, les Edgy Brown, tous ces jeunes-là qui sont là.
Je ne dis pas que c'est gagné d'avance pour les Panthers. Simplement, sur le papier, cette équipe est quand même
je vais mettre les Titans.
Oh, d'accord.
Je vais mettre les Titans parce que les Titans sont plus propres. Ils perdent moins de ballons. Ils ont perdu seulement 6 ballons. Tannehill fait le minimum vital, la défense fait du taf. Kyle Allen sort d'un match à 3 interceptions. Il a eu une semaine de repos pour gamberger dessus. Il est encore titulaire. Je vais dire les Titans.
Ok, ben voilà. Moi, tu vois, je prends les Panthers. Je pense que McCaffrey peut faire la différence et que ça devrait suffire. Buffalo Bills, 5 victoires, 2 défaites. Washington Redskins, 1 victoire, 7 défaites. Petit coup d'arrêt pour les Bills, mais ils devraient réussir à maintenir Washington sous les quoi, 10 points.
J'allais dire sous les 2 points. Ouais.
2 points.
J'allais te dire, tu crois qu'ils marquent combien de points les Redskins? Parce qu'en gros, moins tu 10, stops Adrian Peterson.
C'est ça.
Et il n'y a plus rien. Tu sais, ça me fait penser à ces combats où genre le mec il met la main sur le front du gars et le gars il est trop court.
Ouais.
J'ai l'impression que ça va être ça un peu toute la soirée. Les Bills ils vont faire ça, ils vont marquer genre 10 points et puis après ils vont faire allez vas-y. En fait,
envoyez ce que vous avez.
La journée elle est finie. Non mais voilà, Washington prend beaucoup de yards sur le nez. Tout le monde a cru partir à la deadline. Josh Norman, tout le monde. Je sais même pas dans quel état psychologique ils sont. Trent Williams est revenu, mais il est pas revenu. Hein, on rappelle quand même que donc il est revenu le soir de la deadline, mais maintenant il dit que son casque lui va pas. Donc on est reparti sur un casque gate chelou.
Ah,
mais là ça a l'air
d'être
très diplomatique.
Génial.
Il veut plus rien avoir à faire avec cette équipe. Honnêtement, qui pourrait le blâmer. Je pense qu'en plus les Bills vont être motivés, ils se sont fait ouvrir par Philadelphie au sol, donc là ils vont être motivés pour stopper Peterson. Buffalo.
Mais figure-toi que Peterson, la dernière fois qu'il a joué les Bills, c'était en 2010, alors ça vaut plus rien, mais quand même 3 touchdowns avec Minnesota quand même.
Donc, c'était longtemps.
Ah, c'était la belle époque. 2010, c'est pas l'année. Non, c'est 2012 où il est MVP, je crois.
Le podcast n'existait même pas.
Oh, si, quand même.
2011.
Bah, donc 2012, quand il est MVP. Ah mais non mais 2010, le match ah oui ouais, la dernière 2010, fois, ben voilà, la dernière fois que Peterson a joué face aux Bills le podcast n'existait pas
ouais.
C'est beau quand même. Dimanche à 22h05, Seattle Seahawks 6 victoires 2 défaites. Tampa Bay Buccaneers 2 victoires 5 défaites. Seattle qui continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Stat marrante, Pete Carroll a un bilan de 1 victoire et 3 défaites face aux Bucks quand même.
Ah ouais.
Et ouais, comme quoi tu vois, j'aurais pas dit ça.
Ben après, l'avantage, c'est toujours que Seattle gratte des ballons et que Tampa Bay en perd à peu près 400 par match. Donc,
Ah, c'était ça, les 400 de tout
ouais, ça doit être ça, ouais. Non, mais toujours pareil, ça devient un cliché terrible, mais sur le talent, les Buccaneers, avec Mike Evans,
Chris Godwin, 6 touchdowns, Shaquille Barrett, 10 sacks, 12 pertes de balles provoquées.
Mais ils ont des joueurs merveilleux, mais c'est toute leur faute à eux et c'est pas de la faute de James Winston, il a dit Bruce Arians. Donc, les choix de jeu de Seattle sont pas ouf, sont pas très recherchés. Attention, en plus, Tampa limite quand même ses adversaires à 3 yards par course. C'est la meilleure NFL sur les yards par course autorisés.
Ah,
donc, parce que Seattle aime bien courir en première intention.
Oui.
Donc, s'ils arrivent à stopper ça,
sauf au Super Bowl, en première, yard de la ligne.
En première et en seconde intention, Marmon Camille. et en troisième et en quatrième. Voilà. Donc, s'ils se font stopper à la course, j'ai envie de dire presque pourquoi pas. S'ils arrivent à forcer des erreurs en défense, il y a Shaquille Barrett qui s'est un peu calmé au niveau des sacs. Mais
t'y crois vraiment?
Ah non, là, je fais l'avocat du diable, et en l'occurrence de James Winston, ce qui est plutôt un bon parallèle. Mais
James Winston, le diable, ouais, ça se tient.
Bah, comme d'hab, Tampa va faire des erreurs. Donc,
oui, c'est Seattle. Très probablement en faveur de Seattle, qui sont bien plus complets et réguliers. Oakland Raiders, toujours à 22h05. Il y a deux matchs à 22h05, d'habitude, il n'y en a qu'un. Oakland Raiders, 3 victoires, 4 défaites. Detroit Lions, 3 victoires, 3 défaites, 1 nul. Stafford qui vient de dépasser Joe Montana au niveau des yards lancés en carrière. Quel grand quarterback quand même, Matthew Stafford. Oakland, Josh Jacobs.
Mais il est très bon. Hein.
Non, mais c'est... Moi, je trouve qu'on l'a un peu sous-estimé, mais bon. Russell Wilson est meilleur. À Oakland, Josh Jacobs fait un super début de saison quand même. Meilleur rookie au yard gagné et touchdown marqué au sol. Les deux défenses prennent pas mal de yards. Est-ce qu'on peut partir dans un duel offensif?
Ouais, alors c'est deux équipes qui aiment bien être trop courtes, qui jouent trois cartons en général et qui ont du mal à finir. Donc je sais pas si on joue le match sur trois cartons pour avoir du suspense ou si on les regarde s'épuiser dans le quatrième. Je ne sais pas comment ça va se passer.
Ça règle comme ça.
Mais oui, c'est bien, c'est deux physionomies assez différentes parce que les Lions c'est plutôt aérien. Les Raiders se sont trouvés un coureur principal avec Josh Jacobs qui est hyper intéressant.
Ouais.
C'est un match. Ouais, moi je trouve qu'on a un peu surestimé les Lions en début d'année en disant ah oui, ils ont accroché, mais ils finissent pas. Bon. Je trouve toujours que les Raiders sont bien coachés et se débrouillent bien avec ce qu'ils ont.
Finalement.
Il y a plus de qualité globale à Détroit. Donc je vais dire Détroit. Ils sortent d'une victoire, du coup, si je dis pas de bêtises. Ils ont battu les Giants. Hein.
Oui, ils ont battu les Giants à 7 points.
Donc je vais dire Détroit, mais celui-là, il m'étonnerait pas dans un sens ou dans l'autre.
Ouais, moi j'ai dit Détroit aussi. Après, des quatre matchs là, de la deuxième partie de soirée, c'est clairement le plus intéressant. Ça peut aller, je suis d'accord, dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, un bilan assez similaire. Hein, donc pourquoi pas, Oakland, pourquoi pas. À 22h25.
Attends, t'as mis Oakland ? Non.
Non, j'ai mis Détroit.
Ah, tu prends Détroit, d'accord.
Non, mais pourquoi pas, toi, d'accord, Oakland, ouais, bon. Pourquoi ne pourrait pas l'emporter ?
Non, d'accord. Détroit pour tout le monde.
À 22h25, fessée de la soirée, Los Angeles Chargers, 3 victoires, 5 défaites. Qui reçoivent Green Bay Packers à 7 victoires et 1 défaite ? Combien de pourcentage de fans de Green Bay dans les tribunes, à ton avis ?
Ah bah là, ouais, là, on va frôler le...
On est au 80%,
là, ouais, quelque chose comme ça.
C'est quasi sûr.
Mais non, mais c'est une énigme, cette équipe de San Francisco.
De Los Angeles.
J'hésitais entre San Diego et Los Angeles, je suis parti sur San Francisco.
San Angeles.
Non, mais ouais, c'est une énigme. C'est une équipe qui sous-performe terriblement. Il y a des problèmes de coaching sur le cas Melvin Gordon, il y a des problèmes sur la ligne. Donc oui, autant j'ai eu des accroches avec Philippe Rivers, autant il n'est pas le principal il n'est même pas le principal fautif, hein. Ça sous-performe sur les stars défensives,
ça dépend hein.
Non mais il y en a aussi, hein. Mais je veux dire il sous-performe sur les stars défensives aussi, enfin il y a tout le monde sous-performe, donc je trouve ça assez décevant, et ceci étant dit Green Bay en pleine bourre, donc en plus Aaron Rodgers est californien de base, il joue même pas à l'extérieur.
Non mais c'est ça, tout le monde va être pour eux. Après, typiquement, pour connaître un petit peu et les avoir suivis depuis quelques années, les Chargers, c'est le genre de match où ils sont capables de jouer le meilleur match de l'année, de le perdre, hein, mais de jouer le meilleur match de l'année et de te dire la vache, si on avait joué comme ça les trois derniers matchs, on gagnait.
Mais ils sont aussi capables de le gagner avec Joey Bosa à 3 sacks et un fumble forcé, hein.
Bon, ça suffira pas. Moi, je pense que ça suffit pas. Bon, surtout que les Packers se mettent à utiliser Aaron Jones un peu dans les airs aussi, là, et que ça est un peu, tu vois, c'est un peu comme. Bah, je crois qu'il est le troisième meilleur. Je sais plus, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il est dans les meilleurs coureurs en termes de réception. Et bah, c'est un peu ce qu'aiment faire les Chargers aussi en face. Donc, si en plus tu les bats à leur propre jeu, c'est fini.
Packers
pour tout le monde. Denver Broncos, 2 victoires, 6 défaites. Cleveland Browns, 2 victoires, 5 défaites. Ouais. Oh là là, cette série des matchs de 22h25. À moins que.
Ouais, enfin,
est-ce que ce serait pas le match où les deux équipes choisissent de se donner à fond pour avoir leur troisième victoire de l'année ?
Non, mais les Browns, on en a parlé dans l'émission de mardi assez largement. Pour moi, ont un calendrier pour finir en positif parce qu'ils ont passé, ils ont un peu mangé leur pain noir, ils ont mangé du très très dur quand même dès le début de l'année.
Oui.
Là, ils jouent quand même une attaque de Denver qui était à la ramasse totale et qui en plus a perdu Joe Flacco et fait débuter Brandon Allen qui joue son premier match NFL. Donc si tu te relances pas là,
encore Allen.
Oui, il y en a beaucoup.
Josh, Kyle et Brandon, d'accord.
Oh bah ouais, Josh, Kyle, Brandon.
Bah parmi les quarterback rookies, en tout cas.
Ah oui, c'est chez les quarterback rookies, oui, t'as raison.
Quand même.
Non, parce que sinon il y en a.
Ah bah il y en a après les Johnson et les Allen. Voilà. Y en a... savoir qu'en faire.
Donc encore une fois, si la défense et si les Browns se relancent pas là. C'est perdu, quoi.
Ah oui.
Là, il faut virer Freddy Kitchens demain s'ils perdent ce match. Hein. Je suis désolé parce que... alors, attention à la défense de Denver. Évidemment, la défense de Denver est bonne. Ils se sont bien lancés après un début de saison un peu raté. Ils avaient même passé quelques semaines sans sac, je crois. Et ils ont vraiment empilé sur les derniers matchs.
Heureusement que Von Miller est toujours là, quoi.
Mais ça pique pas encore de ballon. Donc ça, voilà. Ils ont remonté la tête sur les sacs. Ils ont remonté la tête sur beaucoup de choses. Ils sont quatrième sur les yards, quatrième contre la passe, huitième sur les points. Donc ils ont vraiment remonté la barre. Même si cette équipe, elle agonie, ça prouve à quel point l'attaque est à la vraiment
morte. Il n'y a rien.
Là, deux semaines, du coup, ils échangent Emmanuel Sanders et ils perdent Joe Flacco sur blessure. Hein, donc, c'est quand même vraiment très compliqué. Donc, encore une fois, pour moi, il y a tellement rien que à part si les Browns donnent 20 pénalités et lâchent des ballons de partout et font n'importe quoi, ce qui est un de leurs problèmes depuis le début de l'année. Hein.
Oui.
Mais là, normalement, ils doivent se relancer, donc Browns.
Ils sont bien plus complets, hein, offensivement en tout cas, et même en défense, il y a un peu de matos, il y a toujours Myles Garrett. L'opposition, Myles Garrett et Von Miller est sympa aussi, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure avec Nick Bosa et Chandler Jones.
Ah bah normalement, là, les deux, ils vont se gaver hein, sur la feuille de stats.
Ouais, ouais, donc bon, à suivre, mais effectivement, Cleveland a l'air un peu mieux armé. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Sunday Night Football à 2h20 du matin, ce sont les Baltimore Ravens à 5 victoires et 2 défaites face aux New England Patriots à 8 victoires et 0 défaites. On en a parlé en première partie et on prend tous les deux les Patriots. Et dans la nuit de lundi à mardi, le Monday Night Football à 2h15 du matin, New York Giants 2 victoires, 6 défaites, Dallas Cowboys 4 victoires, 3 défaites. Je vais te spoiler la fin, parce que j'ai marqué plein d'arguments en faveur des Cowboys en disant plein de choses pour eux, mais hashtag NFC Est.
Bah, c'est ça. C'est fou ce que ces équipes font recette, parce qu'on a toujours en prime time les Cowboys Giants.
Bah, c'est des énormes marchés.
Automatiquement
Dallas,
en prime time.
Dallas, c'est un énorme marché. New York aussi.
Non, mais Dallas attaque mieux, défend mieux, perd moins de ballons. Ils ont gagné 35-17 à l'aller. À partir de là, je ne vais pas pronostiquer autre chose que Dallas.
J'ai trouvé une stat marrante. Daniel Jones, la semaine dernière, a quand même fait un bon match face aux Lions. Il a fait 322 yards, 4 touchdowns, 0 interception. C'est sa deuxième fois de l'année à plus de 300 yards, plus de 2 touchdowns et pas d'interception. Et il y a un seul rookie dans l'histoire de la NFL qui a fait une saison avec 2 matchs et
Kurt
autant
Warner.
De statistiques. Non, Dak Prescott.
Dak Prescott, ah ouais, d'accord.
C'est marrant, qui va donc l'affronter. Hein. Voilà, vous
moi, tu me dis record rookie, je réponds toujours Kurt Warner. Comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Mais il n'était pas rookie en plus. C'est une bêtise. C'était sa première année, mais je crois pas qu'il était rookie.
Bah, non, mais tu vois, c'est comme Rodgers ou c'est comme Brady qui, en fait, la première année, n'ont pas vraiment joué.
C'est vrai.
Donc voilà, effectivement Dallas, tout va en leur faveur. Et voilà pour tous les matchs et tous les pronos de la semaine. On passe aux cotes.
Raoul découvre qu'on est en live. C'est en public, c'est ça, Camille? Tu nous disais. Ah,
ah bah bonjour à tous les gens qui nous regardent.
Bah bonjour à tout le monde.
De toute façon, bonjour, même si vous regardez en différé. Hein. Les meilleures cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Comme chaque semaine, 3 cotes, 1 combiné, vous gagnez. Alain, quelle cote as-tu choisi?
On en a parlé, les Lions sont une bonne cote. Ils ont une bonne chance, surtout dans un match contre les Raiders où ils ont du talent suffisamment, à mon sens, pour battre cette équipe d'Oakland et faire des choses dans les airs, notamment avec Kenny Golladay et Matt Stafford. Donc 1,95, bonne cote pour les Lions face à Oakland dans un match qui est gagnable. Donc 1,95, les Lions, première cote pour moi.
Tout à fait. Je recherchais l'adversaire de ma cote, mais vous allez me la redonner. J'ai pris les Colts à 1,70 qui jouent. Et là, je me tourne vers vous.
Et on a dit qu'ils étaient.
Ah,
tu me mets un doute. Attends, je vais te le dire.
Non, mais bon, voilà, de toute façon, les Titans? Les Titans?
Non.
Non? Pas les Titans?
Ah bah voilà.
C'est ma faute.
Attends, tu m'as perdu.
Tout ça pour dire que les Colts, de toute façon, sont mieux armés. Et
les Steelers.
Les Steelers, ouais, parce que voilà, en plus, en face, il y a un quarterback rookie qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme et qui n'est pas toujours bien entouré. Donc, ça a l'air d'être en leur faveur. C'est 1,70. C'est eux qui sont les favoris de ce match-là. C'est la meilleure cote pour un favori, 1,70. Hein, de toute façon, sur Unibet, j'ai remarqué. Donc, bonne cote.
Et la bonus.
Ouais, la cote bonus, on a pris les Packers. Alors, vous allez me dire, ils sont largement favoris du match, mais ils sont à 1,45.
Il y en a des bonnes, ouais.
Et en fait, 1,45 pour les Packers, ce ne sera pas tous les jours le cas. Donc, faites-vous plaisir. Vous ne pariez pas souvent sur les Packers, j'imagine, si vous voulez des grosses cotes.
Et
donc,
bonus, bonus, même cote pour les Patriots contre Baltimore. Et les Patriots sont rarement à 1,45.
C'est vrai. Donc là, si vous prenez les Lions à 1,95, les Colts à 1,70 et les Packers à 1,45, pour un total de 10 euros misés, vous avez un gain potentiel de 48,07 €. 0,7, oui, c'est ça.
YOLO.
Le YOLO, comme d'hab. Les trois premières cotes, on les garde. Donc, Détroit, Indianapolis et Green Bay. On rajoute les Jaguars à Londres à 1,88.
Faisable.
Les Houston Texans sont à 1,70. Si jamais vous hésitez entre les deux, cotes sont pas mal. Mmh. Mais nous, on a choisi les Jaguars. Alain n'est pas rancunier puisqu'on a mis les Dolphins.
Ouais, mais c'est un YOLO.
C'est un YOLO. Les Dolphins...
Mais jouable contre les Jets. Là.
À 2,25 en plus contre les Jets, c'est loin d'être idiot. Et les Bears à 2,60, alors ça c'est surprenant, je sais pas, mais en tout cas les Bears face aux Bills, bon, pourquoi pas. Non, pas face aux Bills,
non,
quoi, les Eagles.
Ouais.
Oui, je pensais aux grosses défenses.
Tu t'embrouilles.
Non, c'est face aux Eagles. Mais bon, les Eagles n'ont pas toujours été réguliers.
Pour
les
moi,
Bears.
C'est le plus dur du YOLO. J'y crois pas.
Il est à 2,60, hein, ouais. C'est YOLO.
C'est C'est le YOLO du YOLO.
C'est YOLO. Mais bon.
Mais il est plus raisonnable et il est pas ça. Parce qu'on on s'était vraiment lâché la semaine dernière. Donc,
T'as mis les Dolphins. On remarque qu'on les a mis là aussi. Mais ils jouent les Jets. Donc, Détroit, Indianapolis, Green Bay, Jacksonville, Miami et Détroit. Non, Chicago.
Et Chicago.
Ça vous fait un gain potentiel de 580,52€ pour 10 euros misés. Oui, c'est moins que d'habitude, mais cette fois-ci, il est pour vous. Vous allez gagner.
Ouais, là, c'est le souhait. Bon, là, c'est sûr que niveau location à Paris, on est sur du chiotte. Hein.
Ah bah, ouais, non, ou un petit placard à balai.
Ah ouais, 580 balles. Là, je... Attends.
Ah, c'est l'échelle parisienne.
Ouais, non, là, d'expérience, vous êtes plus sur un deux pièces à Évreux, là.
Cette petite tasse, sinon, pour la louer pour 580.
C'est ça. Vous pouvez habiter à peu près sur cet espace à Paris, là, sur la table, pour 580€ par mois. Je vous dis, sinon, c'est plus... côté Évreux, 580, vous êtes un petit 30 mètres carrés.
Allez.
30, même 40. Hein.
Si jamais vous saviez pas où déménager.
Voilà.
C'est comme ça que ça termine.
Moi, je prépare ma reconversion à agent immobilier.
L'épisode 317. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui étaient en live, du coup. Merci Alain et merci à Camille. Pour la suite, c'est comme toujours, dimanche dans le fauteuil à 18h. On reprend les horaires habituels.
Yes.
Mardi pour le débrief. N'oubliez pas le répondeur. Il y a le répondeur qui est là. On vous donnera le numéro. Vous le trouverez assez facilement.
Il est affiché. 06 52 21 65 36. Et n'oubliez pas ces messages. N'oubliez pas ces messages vocal sur WhatsApp.
Ouais, envoyez un message WhatsApp.
Faut pas appeler, je réponds pas, je laisse vibrer.
Oui. et bisous à tous ceux qui vont au match à Londres et notamment à ceux de notre équipe, Jean-Michel et
Nicolas.
Et
Tiffany.
Et Tiffany, bien sûr, qui prend des photos que vous pouvez admirer à chaque fois. On les embrasse. Bon match à ceux qui y vont. On est sur Twitter et Facebook @touchdownactu. On est sur Instagram @tdactu, pardon. Sur Instagram @touchdownactu en entier. Mmh. C'est là la différence.
Avec plein de photos encore. On essaie de faire des photos du jour. Un petit coucou à Lionel Friedrich d'ailleurs que je remercie qui nous a envoyé des photos cette semaine. Ouais. Superbe photo aussi de Londres.
Bravo, merci. N'hésitez pas à partager tout ça sur les réseaux sociaux. @AlainMattei pour Alain. @CamilleSarabène pour Camille. @RaoulVDG pour moi-même sur Twitter. L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, le détour obligatoire pour les paris sportifs sur la NFL. N'oubliez pas d'aller vous inscrire en passant par le site et de regarder les matchs directement depuis le site internet si jamais vous n'avez pas encore fait.
Dans l'autre sens.
Voilà.
J'y arriverai jamais à la symétrie de la vidéo.
Ah ouais, ça, c'est terrible. Voilà, vous voyez le logo en plein écran. Merci à tous. Très bonne semaine et bisous.
Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fameux pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast, Lobel, Beckham, Tom Brady, quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.